Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
But at the end of the day, it started with you and you took these pictures. I mean, it's 2012. What do you expect to happen? Somebody's going to monetize this.
Well, I'm just kind of amazed that he's pretending to be this good guy and this changed guy. He liked being a life ruiner.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Comment vous sentiriez-vous si du jour au lendemain, des photos intimes de vous étaient diffusées sur Internet à votre insu?
En 2010, isanyoneup.com, un site Internet dont la mission est de violer l'intimité des gens, est mis en ligne par un certain Hunter Moore. Le site connaît automatiquement un vif succès.
Cependant, des parents de victimes humiliées sur le site vont livrer un combat intense afin de leur rendre justice.
Mais ce ne sera pas facile.
Un ancien Marine américain ainsi que le groupe Anonymous vont se mettre de la partie afin de faire taire l'homme le plus détesté d'Internet. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien, et toi, Émile Gauthier?
Ça va extrêmement bien parce qu'on célèbre deux choses aujourd'hui. Oui. Tout d'abord, c'est notre 100e épisode.
Oui, c'est fou ça.
Ben oui, on pensait jamais se rendre jusque-là. Je me rappelle même dans les débuts de Distorsion, on était des gros fans de Generation
Y.
Exact. Ben, on est encore des fans, puis on voyait qu'eux cumulaient plus de 100 épisodes.
Oui.
Puis je me rappelle, on s'était dit, ben on se rendra jamais, il n'est pas question qu'on fasse 100 épisodes de Distorsion. C'est pas vrai. On n'aura jamais assez de sujets. On n'aura jamais non plus la ténacité de se rendre jusque-là.
Exact, oui.
Puis au final, ben, ça fait plus de 100 épisodes qu'on fait déjà.
Oui,
on a déjà passé le cap avec le cap du 100 épisodes avec nos bonus, nos mini-tito et tout ça.
Presque 120, 130.
Exactement. Ouais. Donc, techniquement, on l'a déjà passé depuis un bout, mais c'est pas grave. C'est officiellement le numéro 100 depuis le début, donc depuis 5 ans. Donc, merci aux Distordus qui sont encore avec nous depuis 100 épisodes. Et puis, je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y en a qui ont écouté les 100 épisodes au complet?
Ah oui, c'est vrai.
Sans doute que oui, mais vraiment au complet.
Oui,
pas sélectif, là. Je serais curieux de voir ça. Puis la deuxième raison pour laquelle on célèbre aujourd'hui, Seb, c'est qu'on est dans notre nouveau studio.
Oh, oui.
C'est le premier épisode qu'on enregistre dans un nouveau studio, donc il n'y a pas encore beaucoup de meubles, ça se peut que ce soit encore un petit peu écho, mais on s'est trouvé un magnifique petit studio à Montréal, près de chez nous, en fait, près d'où on habite, que maintenant, on occupe à temps plein, donc c'est vraiment fantastique.
Ah oui, on est vraiment content. Hein? C'est un milestone à Distorsion d'avoir le studio. Puis je trouve que les astres sont bien alignés, ou du moins, je trouve ça beau que notre 100e épisode s'enregistre
dans le nouveau local.
Exactement.
Donc ça, je trouve ça bien.
C'est vraiment trippant. Donc peut-être nos futurs invités auront la chance de venir faire un tour,
oui.
Nos futurs collaborateurs, d'autres podcasteurs, bien sûr.
Oui, absolument.
Ça va nous faire plaisir de les inviter ici. Mais en attendant, pour l'instant, il n'y a à peu près rien à part notre belle nouvelle table,
oui.
Fraîchement déballée. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Fait qu'on va la meubler un peu, puis on vous fera une visite guidée éventuellement.
Oui,
puis pourquoi pas inviter des auditeurs aussi, à un moment donné,
oui,
à venir assister à un enregistrement.
Ben oui, why not?
Ça pourrait être cool. Yes, et aujourd'hui, on ne boit pas quelque chose d'ordinaire, mon cher Seb. On boit du champagne pour célébrer notre 100e épisode. On boit un Bollinger spécial cuvée brute qui est de la région de Champagne, bien sûr.
Oui,
donc,
ben
qui n'est pas un petit champagne cheap. Là. On a bien hâte de goûter à ça. Et c'est une gracieuseté de Olivia Roy et de son conjoint François. En fait, eux sont des distordus, même membres Patreon depuis très longtemps.
Mm-hmm.
Ils nous écoutent et ça fait longtemps qu'Olivia me dit « Hey, là, faut que tu me dises quand t'enregistres ton 100e épisode parce qu'on veut t'envoyer du champagne. » Donc là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et Olivia et François sont vraiment cool. Eux, ils nous écoutent. Ils vont faire de la moto sur la côte est américaine. Ils écoutent Distorsion sur la moto. Olivia m'envoie des petites vidéos, tout ça. Donc, c'est très cool. Et elle nous a même écrit un petit texte, Seb, que je vais nous lire live. Olivia nous dit « À la fin de la saison 1, vous souleviez l'idée de revenir pour une deuxième saison. Nous revoici près de 6 ans plus tard à célébrer votre 100e épisode et plus précisément 100 épisodes, 5 épisodes bilan, 9 épisodes bonus, 5 spéciales Halloween, 16 mini-disto, 20 Disto News sur TikTok, 2 épisodes secrets sur Patreon et 24 after show. » Donc, ça fait beaucoup quand même. Donc, elle a tout comptabilisé. Elle a fait vraiment des statistiques distordues. Et elle nous dit « L'Internet déborde d'histoires étranges et nous continuerons à être des milliers à vous écouter, nous les raconter. Vos voix bercent nos balades en voiture, nos randonnées pédestres, nos rides de moto, nos tâches ménagères, nos nuits d'insomnie, nos soirées de travaux scolaires et nos quarts de travail trop long. Aujourd'hui, c'est à notre tour de vous lever notre verre en notre nom et au nom de tous les distordus à travers le monde. Merci pour tout et bon 100e de Olivia et François. » C'est touchant.
Hey, c'est vraiment touchant. Wow,
ben
merci.
Oui.
Je suis vraiment ému.
Donc, on va boire ça à l'instant.
Oui, Colin,
je vais l'ouvrir parce que Olivia m'a dit qu'elle voulait entendre le pop du champagne dans l'épisode. Donc, on va essayer de ne pas faire blower ça sur la console.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
On ne l'a pas shaké avant, là, comme dans les courses de F1. Attention. Ouh!
Wow!
Oh, j'espère que vous avez bien entendu. Et tiens, on va vous mettre un peu de ASMR, de champagne porn ici en le versant. Bon, j'en ai un peu renversé sur moi, mais c'est pas grave. Tiens, mon cher Seb, je t'en sers aussi. Toujours un petit peu précaire au-dessus de la console, comme ça.
Merci.
Yeah.
On aime vivre dangereusement.
Eh oui, et cheers, mon cher.
Oh yeah.
Yes. Et ben aussi, on a un shout-out. Pourquoi pas, Seb, pour ce 100e?
Ben oui, on a un shout-out, une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Onyx Royal de France.
Ah, mon Dieu, que c'est bon, ce champagne-là.
Oh, attends, je goûte avant de poursuivre.
Moi, à partir de maintenant, je suis comme The Antwoord, je bois juste du champagne.
On peut se le permettre. Oh, c'est vraiment bon. Bref, je poursuis. Onyx Royal nous dit « C'est le turbo fun ». J'aimais beaucoup le titre de la review.
Oui.
« Merci Émile et Seb pour ces épisodes captivants. Où que l'on soit, c'est toujours un plaisir pour les oreilles. Continuez comme ça. »
Merci à toi, Onyx Royal.
Oh oui, merci beaucoup.
On vous rappelle que si vous voulez obtenir nos épisodes en avance et nos after-shows, ça se passe sur Patreon. On a 2 forfaits disponibles, un à 3$ par mois et un à 8$ qui donne accès justement au contenu exclusif. Et aussi, on a un after-show quand même assez chargé aujourd'hui. De quoi on va parler, Seb?
Oui, aujourd'hui, on va parler, étant donné que le sujet va parler de la revenge porn. Hein,
oui.
Aujourd'hui, l'épisode. Donc, l'after-show, ben, on va discuter, Émile et moi, un peu du partage de contenu intime là, quand on est en relation. On a déjà eu cette discussion-là. Puis je voulais nous challenger un peu si elle a évolué notre réflexion par rapport à ça. J'ai même lu que des spécialistes recommandaient dans le monde d'aujourd'hui de ne pas s'empêcher d'échanger des contenus intimes entre partenaires. Bref, on va discuter de ça. Puis on va aussi discuter du premier cas type aux États-Unis qui a été condamné officiellement pour de la revenge porn, Kevin Bollart. pour le site You Got Posted, qu'il a créé à fin 2012. Donc voilà, ça va être les sujets pour notre after show.
Yes, on a bien hâte. Donc, je crois qu'on en a assez dit, mon cher Seb. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire troublante de Hunter Moore, le ruineur de vie professionnelle?
Oui, oui, monsieur.
C'est parti. Maintenant.
Avant de se lancer dans notre histoire, Émile, je voulais faire un petit rappel sur ce qu'est la revenge porn, pour être sûr qu'on parte tous sur la même définition. En fait, la revenge porn ou la vengeance porno, j'ai même lu la porno vengeur aussi en français, c'est le fait en fait de partager des photos ou des vidéos sexualisées d'une personne sans son consentement. Généralement, ça se produit après une rupture. Pour certains, cela représente même une forme de viol électronique. Ça peut aller jusque-là. Une pratique qui est assez inexcusable, qui est désormais punie par la loi dans plusieurs pays. L'histoire d'aujourd'hui a été un catalyseur au niveau de la loi à ce propos. On y reviendra.
Oui, parce que ça a pris quand même plusieurs années avant que ce soit considéré comme un crime.
Oui, exact. Encore une fois, il y a eu le cas d'Amanda Todd, qui était une forme de la sextorsion, qui est un dérivé là, de la revenge porn. Puis encore là, c'est que les lois, ça prend du temps à changer. Les lois étaient basées sur des vieux dogmes. Donc, ça permettait pas de le punir, puis... Les sites profitaient d'un trou dans la loi. En fait, c'est que les sites Internet aux États-Unis ne sont pas responsables du contenu qui est propulsé par l'utilisateur. Ce qui fait en sorte que Facebook ou tout ça n'est pas imputable si toi, tu mets une vidéo, qui n'est pas conventionnelle. C'est toi qui vas être imputable. Donc, tous les sites s'en sortaient avec ça. Il n'y avait pas de clause de loi, mais ça l'a changé, heureusement, depuis presque 10 ans. Là.
Parce que même Hunter Moore, vous allez voir, on va retourner au début des années 2010. Donc,
oui,
à cette époque-là, on parle de cette époque-là, ça fait juste 12 ans, hein, fait pas si longtemps. Mais déjà, les lois autour des crimes, des cybercrimes n'étaient pas aussi élaborées que maintenant.
Exact, exact. Mais 2010, hein, c'est Amanda Todd. Hein, c'est dans les mêmes années. Oui. Elle a subi le fait qu'il n'y avait aucune loi qui encadrait tout ça. Malheureusement, sans grande surprise, les femmes représentent la majorité des personnes qui sont touchées par la revenge porn avec un ratio de 90%. Mais il faut rappeler que ça peut toucher tout le monde, peu importe votre âge, votre sexe, votre orientation sexuelle ou tout autre facteur de diversification. Quant à la sextorsion dont on a souvent parlé à Distorsion, c'est une variante de la revenge porn. La pratique consiste, pour des cybercriminels, à faire du chantage grâce à du contenu photo ou vidéo à caractère sexuel, récupéré chez la victime, généralement pour obtenir de l'argent, ou souvent des clichés encore plus osés. Et dans ce cas-ci, la plupart des victimes sont mineures en sextorsion. Pour vous donner un ordre de grandeur sur le phénomène, le National Center of Missing and Exploited Children, en fait, donc le Centre national des enfants disparus et exploités, qui est une organisation recueillant les signalements d'abus envers les enfants en ligne aux États-Unis, a collecté seulement en 2021, écoute ça, Émile, plus de 23,9 millions de signalements. Et dans les réseaux sociaux qui y sont impliqués, Facebook y représente l'écrasante majorité avec 22,1 millions de rapports contre seulement entre guillemets, là, 500 000 pour Snapchat ou 150 000 sur TikTok.
Oui, Snapchat étant un haut lieu d'échange de photos osées.
Oui, exact. Puis TikTok, on dirait qu'il s'y prête moins, j'ai l'impression, étant donné que ce n'est pas un vrai réseau social d'une certaine façon. Facebook est bien au courant du phénomène et tente de faire des efforts à ce propos depuis bien longtemps. Rappelons-nous comment ils ont aidé justement les autorités à trouver le coupable dans l'affaire d'Amanda Todd dans les années 2010. Cependant, à cette époque, il n'existait pas vraiment d'outils adaptés sur la plateforme pour dénoncer et endiguer ce genre de pratiques, même qu'elle était un peu responsable de son effet catalyseur. Justement, durant la période de 2010 à 2011, Facebook combattait chaque jour de plus en plus un certain site web de type « revenge porn », qui devenait beaucoup trop populaire et dommageable, autant sur le web que sur le réseau social en tant que tel. Petite note, à cette époque, l'expression « revenge porn » n'existe pas vraiment encore, ou du moins n'est pas très, très répandue. Puis j'avais même checké dans, dans Google Trends, là, l'outil de Google pour voir les tendances de recherche. Puis c'est justement vraiment vers 2012, 2013, 2014, puis en 2022 avec le documentaire. Mais sinon, avant ces années-là, il n'y avait pratiquement pas de recherche sur le sujet. C'est ainsi que le 6 décembre 2011, le site Is Anyone Up, qui est en ligne depuis 2010, vient d'être banni de Facebook. C'est-à-dire que tout lien vers le nom de domaine isanyoneup.com est bloqué et également, la page officielle a été supprimée de sa base de données, en plus de menacer de le poursuivre en justice. La raison principale donnée par Facebook est que le propriétaire du site, un certain Hunter Moore, a publié des captures d'écran issues du réseau social sur le site Is Anyone Up. Pour répondre à son bannissement, Hunter Moore a répliqué avec grande délicatesse en envoyant un email aux avocats de Facebook contenant une jolie photo de son pénis. Ça vous donne une idée du personnage. On y reviendra.
Oui, en effet, c'est tout qu'un personnage, ce Hunter Moore.
Oui.
Avec les statistiques de 2021 qu'on a parlé tout à l'heure, là, qui donnent froid dans le dos, on comprend pourquoi Facebook a mis récemment en place de nouveaux outils pour améliorer la sécurité des enfants et pour faciliter le signalement des comptes suspicieux, avec pour objectif d'empêcher au maximum les interactions avec des inconnus. Par exemple, maintenant, il est impossible pour les adultes d'envoyer des messages aux adolescents auxquels ils ne sont pas connectés, ou même de voir des adolescents dans les recommandations. Personne que vous pourriez connaître, vous savez, là, ce type de recommandation-là.
Oui, oui.
Donc, même les ados ne se retrouvent pas là-dedans. Donc, c'est étonnant que cette fonctionnalité n'ait pas été mise en place plus tôt. De plus, une nouvelle technologie qui est capable de détecter des vidéos et des images comportant des scènes de nudité qui sont partagées sans l'autorisation de la personne concernée a aussi été mise en place. Également, en collaboration avec l'organisme Revenge Porn Helpline, les autres grands joueurs technologiques contribuent à nourrir une banque de données centralisée de tous les contenus signalés de revenge porn et de sextorsion dans le but d'en empêcher la diffusion future sur les autres réseaux sociaux et sur le web, car chaque contenu possède sa propre signature unique. Un peu comme la gestion des droits d'auteur d'une chanson sur les réseaux sociaux. Selon Meta, la compagnie qui gère Facebook et Instagram, bonne nouvelle, ces changements sont déjà efficaces puisque les signalements envoyés par des mineurs au premier trimestre 2022 ont augmenté de 70 % par rapport au précédent. Donc, les gens utilisent vraiment la fonction. Là.
Mais je voyais ça à double tranchant dans le sens que oui, sûrement, elle est mieux intégrée, donc ça facilite le signalement. Mais d'un autre côté, je lisais que la hausse des signalements, je me demande aussi, c'est parce que, pas parce qu'il y a une hausse aussi également des cas, point final, parce que je disais qu'au Canada, c'est assez fulgurant depuis 2020, comment ça l'a, avec la pandémie, ça l'a encore plus explosé.
Oui.
Et bon, j'ai l'impression que oui, c'est l'outil aide, mais je me demande si c'est pas aussi une augmentation des cas en nombre absolu.
Retournons à l'année 2010 où le site Is Anyone Up a été fondé. Hunter Moore, âgé de 24 ans, est de retour chez ses parents après un long voyage de 3 ans et désire fonder un réseau social centré sur les sorties et les festivités nocturnes où les membres peuvent échanger entre eux sur leur soirée festive à San Francisco. Donc, Hunter Moore, c'est un peu un gars de party. Hein,
oui,
il anime des parties, il est DJ aussi, donc
oui,
il fait
exact.
Des soirées. Il est très impliqué dans le nightlife de San Francisco.
Oui.
C'est même un peu une personnalité publique du nightlife. Donc, il est très connu des gens. C'est pas une vedette, une grande vedette,
non.
C'est quand même une moyenne vedette, si on veut. Là. Et lui, en fait, il est très proche de, à l'époque, 2010-2011,
oui,
c'est
oui.
La scène emo qui est très...
Oui.
Qui est, en fait, qui est sur la fin, tranquillement.
Oui, c'est vrai.
Et puis, donc, vous vous rappelez, là, les cheveux très, très proéminents, les skinny jeans, les camisoles et les tattoos dont plusieurs doivent regretter d'avoir fait, là. Certains doivent se rappeler le groupe Him. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça.
Non, mon Dieu.
Le symbole, c'était un pentagramme en forme de cœur. Il y en a plusieurs. Il doit y avoir des auditeurs de Distorsion qui regrettent de s'être fait tatouer ce logo-là parce qu'il y en avait beaucoup. Hunter Moore devait en avoir un. C'est son genre aussi.
Oui, oui, oui.
Et donc, il était très proche de cette scène-là. C'est ainsi que son site Is Anyone Up, est-ce qu'il y a encore quelqu'un debout en français, est né. Donc, il publiait des photos qui tiraient un peu de la scène du nightlife et de la scène emo là, de San Francisco et même un petit peu ailleurs en Californie. Là. Le site commence à avoir un peu de traction et Hunter passe ses journées à s'en occuper et à le nourrir en contenu. Mais c'est le hasard qui va faire basculer la mission première du site vers un type de site là, beaucoup plus dérangeant. Un soir, Hunter partage une photo nue de sa petite amie sur le site. Il n'en fallait pas plus pour que chacun surenchérit avec une photo de sa copine ou de son ex. Avec ce nouveau type de contenu, le site attire une nouvelle clientèle, même s'il reste dédié aux soirées festives de SF. Une semaine plus tard, 14 000 vues s'affichent au compteur. À chaque jour, de plus en plus de photos nues amateurs sont publiées. Des photos là, très crues, très intimes. Beaucoup de selfies aussi là, de photos prises dans les toilettes, oui, tout ça. On ne parle pas de pornographie professionnelle. Oui, c'est des photos vraiment candides là, que les gens prennent eux-mêmes ou que les gens prennent à l'insu des autres.
Oui.
Et bref, c'est à partir de ces photos-là que le site s'est tourné un peu plus vers la revenge porn.
Oui.
Il se rend rapidement compte là, que l'attraction est là. Les statistiques le prouvent. Le site est passé de 50 visites par jour à plusieurs centaines de milliers. Il contacte alors Hunter Moore, il contacte son avocat pour fonder une entreprise et change la mission du site et le dédie uniquement à la revenge porn. Et là, ça prend vraiment une autre tournure. Puis en même temps, il y a toujours une fascination. Les années 2010, sur Internet, n'étaient pas très régulées. On se rappelle de certains sites, même de films d'horreur, d'images d'horreur, qui verraient moins le jour aujourd'hui. Là. Oui, à cette époque-là, on pouvait plus facilement publier des choses en se disant « bah, c'est l'Internet, donc sur Internet... » Tout le monde s'en fout.
Oui, le Far West est un peu mieux contrôlé.
Oui, exact. Nous sommes maintenant à la fin 2010. Hunter Moore invite officiellement les internautes à télécharger sur le site des images de femmes nues et d'hommes aussi là, à leur insu. Et les internautes peuvent voter, un peu comme sur Reddit, sur s'ils apprécient ou non ces photos-là. Ou on se rappelle à l'époque « Do you look good? »
Oui,
les gens pouvaient voter. S'il y a des gens qui se rappellent de ça, plusieurs de nos distordus doivent être trop jeunes. Les soumissions au site suivent généralement la même formule. Donc, avec plusieurs images de la personne en question, généralement, ils vont même mettre le nom de la personne.
Oui.
Avant de révéler des images de ses parties intimes et souvent se livrant même à des actes sexuels comme la masturbation. Il va y avoir des vidéos aussi parfois.
Oui, exact.
Ensuite, on assiste à du doxing, car ceux qui envoient les photos ne se contentent pas de ça, mais ajoutent aussi souvent l'adresse personnelle, les comptes des réseaux sociaux, le lieu de travail, même parfois le numéro de téléphone de la victime. Ouais. Donc, quand on parle de doxing, on se rappelle un peu c'est quoi, hein? C'est tenter de retrouver l'adresse physique de quelqu'un dans un but de harcèlement.
Oui, exact.
Et eux, donc, c'est un peu un tout inclus de la revenge porn, c'est-à-dire que tu voyais les photos intimes et tout ça de la personne, et après, tu avais son visage public, en fait, tu avais vraiment son compte Facebook. Donc, tu pouvais aller voir des photos de la personne dans sa vie de famille, bref.
Oui, exact.
Et sur le site Is Anyone Up, tu voyais des photos intimes. Donc, pour ceux qui... pour les pervers d'entre nous, c'était un tout inclus.
Ah oui, c'est l'enfer. Puis même souvent, quand les comptes Facebook étaient protégés, si moindrement quelqu'un était ami avec la personne, la personne allait prendre des captures d'écran, allait les rajouter au site web. Ça se nourrissait comme ça dans les commentaires. C'était incroyable pour les gens qui se retrouvaient là-dessus.
Oh oui, jamais personne n'avait poussé plus loin, en fait, le concept.
Non, exact.
Comme dans les victimes de la saga Pornhub, dont on a déjà parlé à Distorsion. Ça fait un petit peu penser à ça aussi.
Oui, oui, quand il retraçait justement, puis il reprenait des captures d'écran. C'était le même concept qui était repris. Là,
exact. Mais plusieurs années plus tôt. Imaginez les conséquences sur la vie de ces gens-là, pour qui, la plupart du temps, leurs photos étaient destinées seulement à eux-mêmes ou à leur partenaire intime, parfois, oui. Là, et que finalement, ça se retrouve sur le web et que des milliers de personnes t'insultent ou sont même vulgaires et méchants avec toi. Là. Donc, ça doit être très difficile à endurer. C'est clairement une forme de viol virtuel, oui. Une forme de torture virtuelle. Et en plus, les gens voient ton profil... tel que tu l'exposes, je veux pas dire profil public, là,
oui,
mais
oui, oui.
En quelque sorte. Là, donc, c'est très, très insidieux.
Oui, oui, il y a eu des gens qui n'arrivaient plus à se trouver du travail à cause de ça. Il y a eu des suicides. Il y a eu vraiment des drames. Là. C'est incroyable.
Les victimes étaient lynchées virtuellement. Donc, les gens pouvaient même commenter. Donc, c'était un peu comme un forum de discussion. Tu pouvais aller voir, mettons, Katia, et tu pouvais lui dire, la traiter de tous les noms, en fait.
Oui.
Puis c'était effectivement ce qui arrivait. Les gens étaient souvent anonymes sur le site, donc c'était vraiment, pour avoir vu plusieurs commentaires, c'était très, très dur. Là, des commentaires vraiment de body shaming, des commentaires vraiment comme quoi les personnes sont vraiment des objets sexuels, et très rabaissants.
Oui,
en fait,
oui.
Vraiment le côté sombre des hommes, parce qu'en grande partie, c'était ça le public.
C'était
là.
Des jeunes hommes aussi.
Oui,
là,
oui.
Beaucoup d'ados.
Très collégial, universitaire comme public. Donc, sans oublier que des photos, une fois sur un site, ben, elles peuvent se télécharger à l'infini ailleurs puis être réuploadées. Donc, il y a vraiment, c'est très difficile de faire disparaître ces photos-là, ultimement.
Oui, oui, exact. Même avec le système qu'on vous a parlé tout à l'heure, tu peux prendre une capture d'écran de la photo, ça redevient une nouvelle photo.
Oui.
Puis je ne sais pas si le système est capable d'observer les copies de photos, mais bref, quand tu es là-dessus, on dirait que c'est une course sans fin, on dirait souvent, j'ai l'impression.
Exact.
Justement, quand quelqu'un le demandait de retirer une photo de lui sur le site, Hunter Moore avait plutôt tendance à ridiculiser la personne. C'est ainsi qu'est née une autre catégorie sur le site appelée « Daily Hate », donc je veux dire la haine quotidienne. Et elle présente des captures d'écran des réactions de colère des personnes dont les photos avaient été publiées sans leur consentement sur le site. À l'intérieur de cette section, Hunter choisissait une victime qu'il mettait de l'avant et incitait les internautes à la ridiculiser. Comme par exemple, il y avait la moche du jour. Sa communauté, c'est pas reluisant. Sa communauté de plus en plus grandissante, baptisée The Family, le suivait de plus en plus dans ses dérapages. Il lançait des défis ridicules et vulgaires juste pour voir jusqu'où les gens étaient prêts à aller. Puis c'était assez débile, là, tu sais, il y avait des défis, genre, avec du caca, là, tu sais, les gens, fallait qu'ils écrivent, qu'ils fassent la pire chose avec ça, puis là, ils écrivaient « As anyone up » avec leur... Ah non, mais, tu sais, il avait compris comment atteindre... Tu sais, il y avait du charisme, là, tu sais, pour attirer ces gens-là, puis il est devenu comme un symbole, là, tu sais, outre le site, on dirait qu'il nourrissait ça, mais... Et justement, en donnant des challenges à sa communauté de jeunes, tu sais, Jackass, là, tu sais, de l'époque, même en 2010, Jackass était hors d'état. Donc, il y avait cette... il a goûté à ça, puis il voyait que ça marchait, hein, fait qu'il nourrissait tout le temps ça. Puis même, je reviens à ce que je disais, quand les gens écrivaient pour faire retirer les photos, souvent, ils répondaient « lol » ou des choses comme ça. Puis il y a même un oncle d'une des victimes du site qui s'est suicidé, qui lui a écrit, puis il lui a comme répondu que c'était pas son problème, qu'il était pas responsable de ça, que c'était... Imagine, puis il a pris la capture d'écran du courriel, puis justement, il l'a mis dans la section Daily Hate pour rire de l'oncle qui lui-même se catégorisait d'oncle enragé parce qu'il a perdu sa nièce qui s'est suicidée parce qu'elle s'est retrouvée sur ce site-là. Toute son manque d'empathie, c'est un sociopathe, là, c'est incroyable par rapport à ça. Le site devenait tellement populaire qu'il travaillait, selon lui, 19 heures par jour pour le gérer et avait une équipe de 6 personnes travaillant pour lui, dont 2 spécialistes de la vérification de l'âge pour s'assurer que toutes les personnes présentes avaient au moins 18 ans. Cependant, je dois vous dire que le site débordait de photos de mineurs. Donc, sur ce point, il n'arrivait pas à tout modérer. Puis, je me demande vraiment s'il le voulait, là. Puis, avec les revenus qu'il a faits, je pense pas qu'il y avait 6 personnes temps plein et tout ça, là. C'était pas une si grosse business, mais on dirait qu'il aimait ça. Plugger ça, mais ça fonctionnait quand même bien. À un moment donné, il y avait des millions de vues là, par mois. Mais comment un tel site peut vivre sans inquiétude de la part des autorités? En fait, il profite de la loi américaine sur les règles de décence en ligne qui fait en sorte que le propriétaire d'un site n'est pas tenu responsable du contenu téléchargé par les utilisateurs, là, comme on vous avait expliqué un peu plus tôt. Donc, en tant que relais, il est inattaquable. C'est comme Facebook ou Twitter. C'est l'internaute qui est tenu responsable, en fait, de la teneur du contenu qu'il publie. Le réseau social, lui, le modère selon ses propres règles internes. Par exemple, il y a beaucoup de pornographie sur Twitter, là, légitime. Là. C'est pas modéré. Ce que l'on retrouve pas vraiment ou très, très, très peu sur Instagram ou Facebook. C'est un choix éditorial de la plateforme. Cependant, les plaintes contre le site commencent à s'accumuler. Les victimes désespérées répètent les tentatives pour retirer leurs photos du site. Son avocat lui recommande de le faire pour éviter les poursuites. Mais Hunter n'en fait qu'à sa tête. Sa boutique de marchandises et la vente de publicité sur son site fonctionnent bien. Sa chaîne YouTube également. Il ne veut pas arrêter ça. Un soir d'août 2011, Moore est agressé devant chez lui. Une victime du site le poignarde avec un stylo dans l'épaule. Dès le lendemain, il publie une photo de sa blessure avec les points de suture sur son site et les réseaux sociaux. L'anecdote fait le tour du web et fait doubler son trafic en quelques jours. Et c'est à partir de ce moment que les médias commencent à s'intéresser à lui et à son site et qu'il obtient le surnom de l'homme le plus détesté d'Internet. Il faut savoir cependant qu'il a avoué un peu plus tard que tout ça était un canular pour attirer l'attention des médias sur lui.
Ah ben!
Ah oui, puis en plus, c'est les photos, ça avait l'air vrai. Je me demande s'il n'est pas auto-blessé lui-même pour faire ça. Bref, on peut dire que la tactique a fonctionné. Donc, Émile, parle-nous un peu plus de qui est derrière l'homme le plus détesté d'Internet.
Avec plaisir. Revenons maintenant là, au début des années 2000 à Sacramento, là, dans le nord de la Californie, aux États-Unis. Hunter Moore, adolescent, aime le skateboard et le heavy metal, mais passe la majorité de son temps libre sur Internet, sur les chatrooms et les forums en ligne. En 2003, à 16 ans, il crée sa page MySpace, qui était LE réseau social de l'époque. Ah oui, on se rappelle les bonnes années de MySpace. En dehors du web, il a peu d'intérêt pour tout le reste. Il ne terminera pas ses études secondaires non plus. Cependant, en 2005, il obtient son diplôme d'une école de coiffure, mais sa carrière n'ira pas très loin. Il n'aime pas beaucoup les responsabilités et les tâches connexes reliées au métier. Après quelques contrats comme coiffeur dans le milieu des tournages à contenu pornographique, il abandonna le métier. Autour de 2006, il aurait été victime de harcèlement sexuel au travail et aurait poursuivi l'entreprise et aurait même reçu un dédommagement monétaire tout de même important qui n'a jamais été dévoilé. Il décide donc en 2007 de partir à l'aventure. Pendant près de 3 ans, il voyage en Australie et au Japon. Il est toujours resté discret sur cette période de sa vie, mais si on regarde ses quelques archives sur MySpace, c'est plus des paysages de bar que de nature, mettons, là, ou d'artefacts historiques là, qu'on y voit.
Oui,
là.
Exact.
À son retour en sol américain, il se sent transformé et ses intérêts ne tournent qu'autour de la fête et des bars. Il parcourt le pays comme manager pour un groupe de rock californien. Il rencontre et fréquente une fille proche du groupe et fonde le site Is Anyone Up. C'est cette fille qui a été la première victime du site, d'ailleurs. Revenons à notre histoire. Nous sommes maintenant en octobre 2011, en banlieue de Los Angeles, en Californie, la capitale du nightlife américain.
Oui.
L'actrice en herbe Kayla Laws, âgée de 24 ans, prend quelques photos intimes d'elle-même devant le miroir de sa chambre, juste pour le plaisir, et se les envoie ensuite par email pour les garder en lieu sûr. Donc, elle, la jeune femme, elle les avait en fait transmis à cet endroit, pensant que son compte serait le meilleur endroit, le plus sécur, parce qu'elle n'avait pas envie de les supprimer, même si son téléphone n'avait pas assez d'espace de stockage disponible. Cependant, elle ne savait pas qu'elle serait bientôt piratée et que ses images, ainsi que des liens vers ses profils de réseaux sociaux publics, se retrouveraient sur Is Anyone Up en janvier 2012. Donc, c'est des photos qu'elle a prises, même pas pour quelqu'un d'autre, exact. Même pas pour son amoureux son amant. C'est juste pour elle, en fait.
Exactement.
Là. Chose qu'elle a totalement le droit de faire.
Ben oui. Comme elle disait, c'était juste parce qu'elle se trouvait jolie, puis elle voulait, comme plein de gens en font. Là.
Donc, elle, imaginez, elle ne comprend rien de ce qui se passe. Là. En janvier 2012, Kayla est à son travail comme serveuse dans un bar lorsqu'elle apprend qu'elle avait été publiée sur le site. Il y avait une photo d'elle seins nus au milieu de quelques autres photos habillées. Vous pouvez vous imaginer que cela a bouleversé tout son petit monde. Elle a immédiatement appelé Charlotte Laws, qui est sa meilleure amie, et sa mère, évidemment, qui, à son tour, n'a pas perdu de temps pour tenter de faire retirer les photos du site. Donc, à ce moment-là, il y a énormément de messages qui fusent de partout sur son téléphone, énormément de gens qui fréquentent le site, qui la connaissent. Elle ne connaissait même pas ce site-là.
Non, exactement.
Pas du tout. Mais toutes les gens qui fréquentent ce site-là, les membres du nightlife et tout ça, voient sa photo, puis ils la reconnaissent. Et là, à ce moment-là, tout le monde lui écrit et la nouvelle là, se répand là, comme un feu de paille. Là. Cependant, leurs demandes de suppression ont été ignorées même après avoir fourni la preuve du piratage. Portez attention à ce détail, on va y revenir, et elle a revendiqué le droit d'auteur de la photo, et à ce moment-là, des inconnus avaient commencé à contacter Kayla en ligne, ce qui l'a encore plus traumatisée. Parce que là, vous allez voir, il y a évidemment le droit d'auteur, parce que c'est une exact, qui entre en compte là-dedans, on va en parler un petit peu plus tard. Par conséquent, la jeune fille a désactivé tous ses comptes. Elle a tout fermé elle-même et honnêtement, elle a perdu un peu d'espoir, jusqu'à ce que son beau-père, Charles Parcell, un avocat californien bien connu, ait réussi enfin à faire retirer les photos du site. Il a donné à Moore un sévère ultimatum par l'intermédiaire de Reza Sina, son avocat, et la photo de Kayla a été retirée. Mais ça n'a pas été facile, je présume qu'on va y revenir.
Oui.
Cependant, l'affaire était loin d'être terminée, car Charlotte, la mère de Kayla, avait commencé à parler à d'autres victimes et elles avaient réalisé que justice était désespérément nécessaire et que ce site devait être fermé à tout prix. Le duo mère-fille a d'abord parlé aux autorités locales, cependant, ceux-ci blâmaient Kayla d'avoir pris des photos d'elle avec son cellulaire et non le site. Ben oui, hein, pendant longtemps, on se disait, ben t'avais juste à pas prendre de photos.
Oui, exact.
Ben oui, comme si ça, ça blanchissait le crime causé par la suite.
On oublie que les victimes sont des victimes.
Ben oui, puis que, je veux dire, elle a pas pris ces photos-là pour les envoyer à Hunter Moore, tu sais. Bref. Les deux femmes se sont alors tournées vers le FBI avec un dossier assez étoffé de preuves et de témoignages. C'est à ce moment qu'une enquête officielle des autorités débute.
Thank you.
Étant impressionné par le dossier de Charlotte, le FBI commence l'enquête. Il faut noter cependant qu'aux premiers abords, ils ont eu la même réaction que les autorités locales. Mais Charlotte les a convaincus de l'importance de la chose. Même son argument béton, c'était... je me souviens plus quelle actrice qu'elle a nommée, là, mais il y avait une actrice qui avait été piratée par son cellulaire et tout ça. Puis elle a nommé, Scarlett Johansson. Elle a dit « Bon, mais vous vous occupez de Scarlett Johansson, mais vous vous occupez pas du monde ordinaire. » Puis c'est quand elle a dit ça que la personne qui lui a répondu, là, je sais pas, l'agent, a dit « Ok, d'abord, on va s'occuper de votre dossier. » Puis c'est comme là qu'elle a pu lui présenter toutes ses preuves et tout ça. Mais tu vois que même encore aux premiers abords, on la prenait pas au sérieux. Mm-hmm. C'est encore une fois.
Il a fallu qu'elle name drop une vedette.
Oui, exact. Puis cette femme-là, c'est une femme qui a du guts, là, tu sais, qui en a vraiment. Oui, oui. Fait qu'imagine pour des gens, disons, plus ordinaires, tu sais, qui ont moins ce... Fait que souvent, les dossiers restent clos. Puis ben il n'y a rien qui se passe. Comme vous le savez, les sites ne peuvent pas être tenus responsables du contenu publié par les utilisateurs. Cependant, ici, dans le cas de Kayla, c'est qu'elle n'avait jamais envoyé ses photos à personne. Donc, comment avait-elle pu se retrouver sur le site de Is Anyone Up en janvier 2012? Charlotte est convaincue que quelqu'un a piraté son ordinateur, son téléphone et ou son compte Gmail. Drôle de hasard également, une amie de Kayla était aussi apparue sur le site. Cette amie s'est également rendue compte qu'elle avait été piratée car son mot de passe Gmail avait changé, sans qu'elle fasse quoi que ce soit. Donc, pendant des semaines, Charlotte rassemble une liste de victimes du site et les contacte pour comprendre comment elles se sont retrouvées là. Et selon son sondage maison, 40% avaient été hackés et 12% photoshopés. Donc, on n'a pas je pense qu'il y en avait une vingtaine ou une trentaine, c'est pas plus, mais quand même. Donc, 40% de ces gens-là, donc presque la moitié, leurs photos, en fait, c'était pas, ils ont été hackés. Donc, ce n'est pas des photos qu'ils ont envoyées aux gens. Donc, c'est là que ça lui a donné un argument béton. C'est là qu'elle a dit, ben c'est pas juste des gens qui envoient des photos. Il y a une corrélation à faire. Ici, donc, elle tient la faille pour le faire tomber, car le hacking est un crime fédéral aux États-Unis. Il faut comprendre que malgré que beaucoup de photos sur le site sont soumises par les internautes, Hunter Moore voulait toujours de plus en plus de photos. Il a donc demandé aux hackers... prénommé Gary Jones, de pirater des comptes de messagerie Google de filles en échange d'argent. Moore a ensuite publié les photos obtenues illégalement sur son site sans le consentement des victimes. C'était des... je pense qu'il y en avait une cinquantaine là, de personnes là, qui ont été hackées pour le site. Pour mettre encore plus de pression sur Hunter Moore, Charlotte avise les médias qu'une enquête est en cours par le FBI car un grand nombre d'images précédemment hébergées sur le site auraient été obtenues illégalement par un pirate informatique. Parce qu'elle, pendant qu'elle fait ses démarches, le site continue. T'sais, puis malgré tout ça, puis même Hunter Moore la harcèle, souvent ils ont utilisé The Family aussi, là, sa gang, pour justement les harceler aussi parce qu'ils savaient que, elle était un peu contre eux. Mais elle était quand même wise. J'ai trouvé wise d'aller voir les médias pour mettre de la pression parce que sinon, il n'y a rien qui se passait.
Ben oui, pas le choix de faire ça. Des fois, on l'a vu beaucoup dans le dossier MeToo.
Oui, exact. Également, depuis quelque temps, plus aucun commanditaire ne voulait s'afficher sur le site avec toute la mauvaise presse qui s'en découlait. Ayant également été avisé de l'enquête par le FBI, avant même que les médias en parlent, le 19 avril 2012, Hunter Moore décide de vendre son site pour $12,000 américains à un certain James McGibney, un ancien Marine et homme d'affaires. Cependant, Hunter ignorait les véritables intentions de James en rachetant le site. En fait, Hunter aurait dû faire quelques recherches avant de lui vendre, car dès l'instant que James est devenu propriétaire de isanyoneup.com, il a automatiquement redirigé le nom de domaine vers bullyville.com, site qui est dirigé par James, et ce site permet à des personnes anonymes de partager leurs témoignages sur des personnes qui les ont intimidées ou harcelées. En fait, c'est un centre de ressources pour les gens qui se font intimider. Donc, ce qui est totalement le contraire de la revenge porn. Puis c'est drôle parce que c'est un peu subtil. James avait cette tactique-là parce qu'il se questionnait à savoir comment je peux le mettre à terre, ce gars-là.
Ouais, ouais.
Puis il se questionnait. T'sais, il dit, ce gars-là, il aime la coke, il aime les femmes, puis il aime l'argent. Il dit, je peux pas y fournir des femmes, je peux pas y fournir de la coke. Fait qu'il dit, je vais lui fournir de l'argent. Puis il savait, il est allé voir, là, puis c'est justement, il est allé voir qu'il n'y avait plus de commanditaire. Il a offert 12 000 $. 12 000 $, c'est rien. C'est rien pour ça. Puis il commençait un peu à négocier avec Hunter pour... parce que Hunter commençait supposément à démontrer un peu d'empathie, puis commençait à regretter son site, puis tout ça. Puis il disait qu'il allait... s'il se faisait racheter, il allait plus prôner, de pas faire ça et tout ça, mais finalement, c'est pas vraiment ce qui est arrivé malgré tout. Et à cause de ça, mais James a jamais dit à Hunter qu'il allait rediriger puis complètement tout enlever le site, là. C'était pas exactement ça, là, l'objectif en arrière. Donc, pour lui, ça a été une excellente tactique, là, selon moi, pour arrêter. Ça a été, en fait, la meilleure tactique pour le stopper.
Ben oui, puis c'est tellement une bonne idée de rediriger vers lui. Vers Bullyville, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des victimes aussi qui allaient... Il y a énormément de victimes qui allaient sur le site, non pas pour regarder le contenu, mais pour vérifier si leurs photos à elles ou à eux, parce qu'il y avait des gars à la fin, il y avait plein de gars aussi. Hein, c'était vraiment le but, c'était d'humilier des gens.
Oui, exact.
C'était
exact.
Plus de la porn. Là. Donc, il y a énormément de victimes qui retournaient voir si leurs photos étaient toujours là. Et donc là, il atterrissait sur un site où il y a des ressources.
Oui, exactement. À l'époque, la fermeture du site semblait un revirement soudain et dramatique. C'est alors que la guerre éclate entre lui et James. Hunter utilise son compte Twitter, qui à l'époque comptait près de 150 000 abonnés quand même, pour prétendre à tort que James McGibney était un pédophile qui possédait de la pornographie juvénile et pour faire plusieurs commentaires désobligeants à son propos. Sans parler des menaces qu'il a fait à sa femme et ses enfants d'une façon assez grossière. Et c'est ainsi que le 21 août 2012, donc quelques mois là, après son rachat, le fondateur de Bullyville, James, publie une lettre ouverte à Hunter Moore sur la page principale de isanyoneup.com, annonçant un recours collectif et encourageant les gens à s'y joindre. Finalement, il a gagné en cours. Il a été condamné, Hunter Moore, à payer 250 000 $ de dommages et intérêts pour diffamation. James a toujours dit que cet argent servira au refuge des femmes battues à travers les États-Unis. Cependant, Hunter n'a jamais encore rien payé. Puis même si tu vas sur le site encore aujourd'hui, même il dit que le montant de 250 000, je l'ai pris d'une nouvelle, mais sur le site maintenant de James, lui, il dit que c'est le montant qu'il doit maintenant, c'est 385 000.
Okay.
Fait que je ne sais pas s'il y a eu des intérêts ou il y a d'autres choses qui se sont ajoutées.
Sans doute, hein.
au fil du temps, mais lui-même, il lui dit, honnêtement, si ça vous intéresse, allez voir, tapez As You Want Up, puis James, vous allez tomber dessus. C'est un message assez récent, là, puis il est quand même assez direct envers lui, puis ça fait du bien. Là. Puis lui dit, tu sais, quand est-ce que tu vas me payer? Puis ça a l'air que même, selon ses dires, il aurait agressé une femme aussi à New York, il a été arrêté, il a donné un coup de tête à une femme. En tout cas, c'est un drôle de personnage, puis, mais il a toujours pas payé. Ça aussi, c'est étrange, hein? T'es condamné, puis je me suis toujours demandé s'il peut... Des poursuites au civil, on dirait que tu peux pas... comme te faire saisir ton salaire ou quoi que ce soit. Je sais pas si un distordu qui aurait peut-être la réponse là-dessus, mais ça, je me questionnais dans un jugement de cour comme ça qui doit payer. Pourquoi il n'est pas dans une obligation, disons...
peut sûrement déclarer faillite.
Ouais, peut-être quelque chose comme ça, mais en tout cas, bref, par rapport à ça. Mais il a réussi, encore une fois, c'est un autre combat que James, je trouve, a réussi à gagner contre lui, en fait, parce que c'était de la vraie diffamation. Là, c'était assez incroyable.
Oui, puis ça ne sera pas facile de le faire payer, ce Hunter Moore.
Non.
On se retrouve quelques mois plus tard, après la fermeture du site, en décembre 2012. Et c'est à ce moment que le collectif d'activistes Anonymous s'en mêle. Malgré que le site Is Anyone Up ne lui appartient plus, Hunter Moore menace sans arrêt depuis la vente du site à Bullyville de créer un nouveau site similaire et y prévoit même de répertorier les adresses physiques à côté des photos des victimes ainsi qu'une carte, là, une map là, de leur maison pour faciliter l'espionnage.
Ouais.
Donc, il compte encore aller plus loin dans ses tactiques. C'est ainsi qu'au début de décembre 2012, Anonymous lance l'opération OP Hunter pour avoir Hunter Moore à son propre jeu et divulguer des informations sur sa vie au grand public. Il diffuse son numéro d'assurance sociale, sa date de naissance, son adresse personnelle, son numéro de téléphone, ses identifiants de réseaux sociaux, les noms de ses parents, même ses adresses IP là, de ses ordinateurs et autres, son profil OkCupid, oui. on se rappelle le site de rencontre, et une liste de poursuites judiciaires en cours contre lui. Ils ont restreint aussi l'accès à ses comptes bancaires et ils produisent même un certificat de décès en Californie, oui. Ça j'ai trouvé très bon. Donc, pendant un certain temps, Hunter Moore est déclaré mort dans le système américain.
Ça, c'est bon.
Donc, c'est quand même des drôles de tactiques qu'Anonymous ont utilisées, là. Sans oublier qu'ils ont même envoyé des masses de jouets sexuels à son domicile. Ils ont mis en ligne une vidéo sur Vimeo qui montrait des photos d'Amanda Todd pour aider à illustrer à quel point les actions de Moore pourraient être nocives. Ils terminent la vidéo avec, évidemment, leur phrase habituelle « Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas et nous n'oublions pas. Hunter Moore, attendez-nous. » Donc, une petite variation de leur phrase habituelle. Il faut savoir qu'un peu plus tôt dans l'année, Naked Security a rapporté qu'une déclaration publiée sur Pastebin appelait et encourageait les membres d'Anonymous du monde entier à prendre des mesures contre Hunter Moore au nom de, entre guillemets, faire une réelle différence dans la vie de centaines d'adolescents victimes d'intimidation et de les protéger contre des préjudices réels tels que le viol ou le harcèlement. En fin de compte, Anonymous considérait le site de Hunter Moore comme une forme d'intimidation et la publication d'informations personnelles sur les victimes sur le site encourage de nouvelles intimidations, qui pouvaient dégénérer en harcèlement ou même en violence physique, même en sextorsion, en chantage.
Oui.
Et tout ça, c'était comme une balle de neige qui ne s'arrêtait jamais, qui ne faisait que grossir avec aucun recours pour les victimes. Donc, c'est quand même bien que Anonymous se soit lancé là, en grand Robin des Bois là, contre Hunter Moore.
Ah oui, ils sont allés fort. Hein. Ils avaient même lancé un communiqué de presse. Quand je disais ça, j'étais comme... C'est quand même une organisation structurée malgré leur décentralisation.
Ouais.
Ils ont une forme de structure à l'interne. Mais ça, je trouvais ça quand même intéressant. Mais j'ai aimé ça qu'ils lui servent ça. Puis tu sais, je pense que ça n'a pas eu tant d'impact sur sa vie. Ses parents, il y a eu quand même du harcèlement. T'sais, lui-même s'est fait harceler et tout ça.
C'est là, sûr. T'sais. Je pense qu'il était, très stressé au quotidien, malgré l'image du gars, invincible, qui projetait.
Ah oh, oui, non, t'as 100% raison. On retourne à notre histoire. Finalement, ayant amassé suffisamment de preuves en janvier 2014, Hunter Moore et son hacker présumé, finalement, qui se nomme Charles Evans, sont perquisitionnés et arrêtés par le FBI et inculpés par un tribunal de district fédéral de Californie pour complot, accès non autorisé à un ordinateur protégé et vol d'identité aggravé. L'élément de preuve principal traite d'un incident spécifique à la fin de 2011, lorsque Moore a envoyé un email à Evans indiquant qu'il aimerait autant de photos nues que possible provenant de comptes de messagerie piratés. En réponse, Charles a accédé au compte de messagerie d'une victime sans autorisation et a obtenu des photos. Evans a fourni les photos à Moore et il l'a payé $145.70 précisément en utilisant PayPal. Et cette photo-là a été publiée sur le site le 29 décembre 2011. Donc, c'est à partir de cette première accusation-là qu'ils ont pu avoir la condamnation. Mais je lisais le document de cour, puis c'est ça, il y avait une cinquantaine de piratages à peu près là, qu'ils ont fait à différentes personnes. Tu sais, je me mettais à penser individuellement, tiens, là, on parle beaucoup de Kyla parce que c'est le cas qui a été médiatisé, c'est lui qui est dans le documentaire Netflix, c'est normal, c'est sa mère qui a pris un peu tout ça, mais tout le stress qu'elle a vécu, tu multiplies par le nombre de victimes. Tu sais, c'est fou, là, tu sais, dans le sens que tous ces gens-là ont subi eux aussi ce stress-là, là, c'est assez fou. Là. Donc, le 2 juillet 2015, Charles Evans, 26 ans, a plaidé coupable à des accusations de piratage informatique et d'usurpation d'identité, avouant avoir volé des centaines d'images de comptes de messagerie de femmes et les avoir vendues à Moore. Le juge de district américain Dolly MG l'a condamné en fait à plus de 2 ans de prison et à une amende de 2 000 $. En février 2015, c'est Hunter Moore, qui avait 29 ans au moment des faits, qui a plaidé coupable à un chef d'accusation d'accès non autorisé à un ordinateur protégé pour obtenir des informations à des fins de gains financiers privés et un chef d'accusation de vol d'identité aggravé. Il l'a condamné à 2 ans et demi de prison fédérale pour avoir engagé un autre homme pour pirater des comptes de messagerie électronique afin de voler des photos nues et qui ont été ensuite publiées sur son site. Il y a 3 ans de surveillance après sa libération. Il a dû subir une évaluation de sa santé mentale. J'aurais été curieux de voir le diagnostic de ça. Et a dû payer une amende de 2 000 $. Le site a vécu 16 mois, Émile. Mais on s'entend-tu que c'est 16 mois de trop?
Oui, en fait, c'est pas long, 16 mois dans la vie d'un site, mais pour les victimes, ça devait tellement être long. C'est fou. Puis quand tu regardes tout ce qu'il a fait, tu te rends compte qu'effectivement, il s'en est passé des choses pendant 16 mois.
Oui, exact. Puis on n'a pas beaucoup effleuré là, tout le côté nightlife parce qu'à un moment donné, en 2011, quand le site, il y avait une petite baisse, il faisait des soirées Is Anyone Up à New York.
Il a même fait une tournée de la côte ouest.
Oui, exact, c'est ça. T'sais. Puis j'écoutais un documentaire, puis son ami de l'époque disait qu'il a tellement changé après ça. Il était tellement rendu dans... il prenait encore plus de coke, plus d'alcool, puis il était devenu complètement une autre personne. Bref, comme on disait, 16 mois, c'est pas beaucoup, mais ça a eu un impact sur la culture populaire. Puis j'ai ressorti un peu de la musique où ce que Hunter Moore est arrivé dans les paroles. En fait, le groupe de metalcore allemand Electric Callboy, je sais pas si tu connais, toi qui connais quand même un peu le métal.
Non, je connais pas ce band-là.
Ah, ben justement, ils ont un single qui s'appelle Is Everyone Up, qui décrit l'idée générale puis les attributs du site. Il y a le groupe électronique Blood on the Dance Floor, que je connais pas non plus, qui ont sorti l'album Evolution en 2012, qui contenait la chanson Revenge Porn, qui faisait référence au site et à Hunter Moore dans les paroles. Il y a le groupe électropop Millionaires qui a sorti un remix de la chanson de Ludacris, le rappeur, qui s'appelait My Chick Bad, donc qui était My Chick Bad Remix, qui contenait aussi des paroles discutant de la publication d'images sur Is Anyone Up. Un autre groupe de métal qui est basé en Floride, A Day to Remember.
Peut-être qu'eux, on les connaît, ils sont connus.
Oui, c'est ça, même moi, je les connaissais de nom. Ils ont fait une chanson qui s'appelle Life Lesson Learned That the Hard Way, qui décrit justement une attaque contre Moore qui était planifiée, mais qui ne s'est jamais réalisée. Puis la chanson aborde également le sujet d'un suicide qui s'est produit parce que les photos nues de la personne ont été publiées sur le site puis diffusées sur Internet. Puis ça, j'ai fouillé sur Reddit, puis il parle d'Amanda Todd dans cette chanson-là. Le sous-texte, là, c'est Amanda Todd qui est cité dans cette chanson-là. Donc, je voulais faire un petit tour quand même de l'impact que ça a eu au niveau de la culture populaire.
Ben, c'est intéressant que tu en parles parce que c'est un peu aussi une revanche de la part des groupes punk, emo et metal parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais dans les débuts de Is Anyone Up, ils mettaient des photos des bandes. Oui, en fait, ils exposaient des photos humiliantes. C'était pas toujours des photos nues, mais c'était des photos des fois prises dans des parties où ça dégénérait. Puis oui, il y en avait il y avait plein de photos nues de chanteurs de bandes, de membres du groupe. Donc, rapidement, les bandes de la scène que lui aimait beaucoup, la scène emo californienne, ça, étaient enragés contre lui. Tu sais, donc là, après coup, parce qu'il y avait, eux, c'était un peu des vedettes d'une certaine façon dans cette scène-là. Puis là, ben, ils se retrouvaient justement avec leur intimité violée sur le site web. Parce que même le hacker de Hunter Moore, parfois, il lui disait de hacker des femmes. Oui, et parfois, c'était de hacker des bands aussi. Tu sais.
Oui.
Puis bon, on sait que parfois, ça peut être, sex, drug and rock and roll.
Oui, ben oui.
Donc, il y en avait, ces gens-là avaient plein de photos compromettantes un peu partout sur leur courriel et sur leur téléphone. Et puis, c'était aussi les téléphones, on se rappelle, là, c'était quoi les téléphones, là, Seb, qui ouvraient, là, tac,
ah oui,
puis qui avaient un clavier à l'intérieur. l'intérieur.
C'est pas les palmes, là, attends un peu. Ouais, c'est, ah, pas, les, c'est pas Motorola.
Les Shift, les Swift, ouais, les. Ça ressemble un peu à une manette de jeu vidéo.
Oui, oui, oui.
Il se déployait, puis à l'intérieur, il y avait un clavier. Donc, ça allait super vite pour prendre une photo.
Mais c'était pas Motorola qui avait ça. En tout cas,
je suis pas sûr.
Bref, mais... anyway,
dites-nous, les distordus, je suis sûr que vous savez de quoi on parle. Mais bref, c'était intéressant de voir que là, ben, il goûtait un peu à sa médecine quand c'est les bands qui le blastent dans des chansons.
Ben oui, exact, t'as raison.
On va parler un petit peu là, pour terminer de la loi sur le revenge porn, parce que c'est complexe. Hein? Suite au cas de Hunter Moore, et même s'il n'a pas été condamné pour ce qu'il a fait véritablement, ils ont été condamnés de hacking, cela a fait en sorte de faire changer les lois un peu partout dans le monde au sujet de la revenge porn et de la sextorsion. Par exemple, aux États-Unis, le gouverneur de la Californie a signé en 2013 une loi pour interdire et permettre de lutter contre la revenge porn. La loi est implantée dans 48 États, mais il n'y a pas encore une loi fédérale, ouais, en fait, à partir de ça. Mais c'est quand même punissable maintenant.
Oui.
Au Canada, ben, le revenge porn est un crime depuis 2015, touchant principalement les femmes, mais aussi les hommes, bien évidemment. Au Québec, ceci dit, environ un ou une citoyen ou citoyenne est accusé de revenge porn chaque semaine.
Hey, moi, ça m'a fait capoter.
Ah oui.
C'est beaucoup.
Ben, on avait déjà parlé dans le cadre de notre émission de télé à un sexologue qui nous disait que lui, il pourrait être temps plein attitré aux jeunes garçons de 10 ans. Qui font du chantage avec, justement, qui font de la sextorsion à l'âge de 10 ans. Donc, il y a des cas au Québec, hein? On le voit, là, ça semble être quelque chose très à la mode. Chaque semaine, les peines se comptent en mois de prison. La peine la plus lourde qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est 273 jours. En dommages et intérêts, c'est 100 000 $ pour un Ontarien en 2016. Et bien sûr, en création de casier judiciaire, ça, il y en a beaucoup, ce qui limite les possibilités d'emploi et de déplacement. Mais bon, c'est encore des peines relativement soft.
Ouais,
exactement. En France, le revenge porn est un délit puni par la loi. Les auteurs ainsi que tous ceux qui relaient les contenus, les images, les vidéos ou les propos à caractère sexuel risquent 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende.
Ils sont plus sévères.
Donc,
hein?
les Français sont les plus sévères là-dessus. À retenir, la loi punit l'infraction de revenge porn même si la personne a donné son consentement à l'enregistrement initial de la vidéo ou des images, bien sûr. Le seul fait que la diffusion, notamment sur Internet et les réseaux sociaux, ait lieu sans le consentement de la personne suffit. Parce que oui, c'est normal, tu sais, c'est pas un crime de filmer des images
non,
de toi intimes.
Mais ils l'ont mis dans la loi, tu sais, comme vraiment pour le clarifier, là, puis je trouvais ça bien. Là. Mais non, parce que 60 000, c'est beaucoup, là, même aux États-Unis, là, ben c'est sûr que c'était pas le même cas, là. Entre moi, c'était 2 000, l'amende, tu sais, puis 2 ans d'emprisonnement, c'est la même peine qu'il a fait pour hacking, tu sais.
Ouais.
C'est pas tant que ça, là, tu sais, malgré que ça doit être les peines de base, quelqu'un qui fait ça contre son ex, mais tu sais, quelqu'un que j'imagine qui héberge un site, parce que en France, puis je suis pas sûr que c'est la même loi ailleurs, j'ai pas vu ce détail-là, mais qu'eux punissent le relayeur aussi. Ça, je trouve que ça fait une différence. Donc, j'ai l'impression que là, le site peut être imputable parce qu'il devient le relayeur, ce que les autres pays n'ont pas l'air de faire. Mais bon, je suis pas un spécialiste, mais je trouve ça intéressant là-dessus. Les Européens sont toujours plus sévères, puis je trouve ça bien.
Le Sénat a définitivement adopté la loi pour une république numérique qui contient un amendement concernant la pénalisation du revenge porn. Jusqu'alors, cette pratique était punie au même titre que toute atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, 1 an de prison et 45 000 euros d'amende, toujours dans le cas de la France. Désormais, si ce délit porte sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, je vous lis la phrase de la loi, là, la peine encourue sera portée à 2 ans d'emprisonnement et le 60 000 euros d'amende dont on parlait tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on fait si on est victime de revenge porn, Seb? Parce qu'il y en a peut-être parmi nos auditeurs l'ont déjà été ou qui le sont actuellement.
Ah oui, je suis convaincu, en fait. Quand on regarde les statistiques, c'est presque sûr. Bien, la première chose, en fait, c'est de ne pas céder au chantage et à la menace. Puis ça, c'est assez simple à dire, puis c'est pas toujours évident lorsque ça arrive, mais c'est un peu comme les rançons de Bitcoin, là. Souvent, on recommande pas de payer la rançon pour pas encourager ça. Généralement, faut pas céder au chantage parce que vous allez encourager nourrir la bête, hein, si on veut. Que vous soyez mineur ou adulte, faut pas rester seul face à ça. Faut pas avoir honte, hein. Faut en parler à une personne de confiance, à un ami, vos propres parents, ils peuvent pas vous juger. Je pense pas, là, tu sais, qui vous juge, là. Tu sais, faut aller voir si c'est une tante que vous êtes proche. Bref, la chose à faire, c'est vraiment d'aller voir quelqu'un, même parce que ça arrive aussi à l'âge adulte. Faut en parler. C'est la chose à faire. Faut signaler les contenus au site sur lequel ils sont diffusés, là, autant les réseaux sociaux que les Pornhub de ce monde. Ils ont tous des formulaires. Puis j'ai même trouvé sur Internet, là, ça se trouve maintenant facilement. Il y a CyberAide, il y a plein de sites par pays, là, qui listent toutes les ressources et les choses à faire. Mais si vous voyez votre contenu sur un site, ben justement, de tout de suite le déclarer. De tout de suite aussi contacter un avocat ou un huissier avec les preuves que vous avez pour commencer à construire un dossier. Là, c'est plate, mais il faut vraiment faire cette étape-là. Bloquer la personne sur les sites, puis garder les preuves, comme je vous disais, faire des captures d'écran. Et même, une fois que vous avez ramassé un peu toutes les preuves, allez tout de suite au poste de police. Même si on dit que souvent, ils prenez pas ça au sérieux. Maintenant, on est dans une autre époque. Ils prennent ça au sérieux. Donc, allez au commissariat de police le plus proche de chez vous et déposez une plainte. Hein. Comme on le dit, c'est puni par la loi. Donc, ils sont obligés de recevoir la plainte. Il faut faire attention à si vous êtes exposé à l'effet Streisand. Hein. Puis je vous rappelle, c'est quoi l'effet Streisand? Hein? C'est un phénomène Internet qui se manifeste par la surdiffusion d'une information faisant l'objet d'une tentative de retrait ou de censure par une entreprise ou une personne. En fait, je vous explique de où ça vient. Barbara Streisand, à une certaine époque, elle voulait faire enlever une photo de je ne sais pas si c'était Google Maps ou un magazine ou quoi que ce soit. Puis ça a eu l'effet inverse. Tout le monde s'est mis à copier la photo puis la mettre partout sur Internet. Donc, l'effet Streisand, c'est ça.
Oui, quand on en parle trop. Là.
C'est ça, de faire attention à ça, en fait, de pas nécessairement trop... faut en parler, mais de pas l'ébruiter ou quoi que ce soit à votre entourage pour éviter... ou sur vos propres réseaux, là, souvent, pour éviter...
l'effet inverse.
Exact. Signaler le contenu, on vous a dit. En France, au Canada, j'ai pas vu de numéro, mais en France, j'ai trouvé qu'on pouvait composer le 3018, donc le 3018, qui est un numéro national contre les violences numériques qui peuvent vous accompagner. Le site web aussi, 3018.fr, si vous êtes victime de revenge porn. Et aussi, sachez que vous pouvez entamer des poursuites civiles, mais c'est un processus qui est difficile, coûteux, et que plusieurs victimes n'ont pas envie de subir. Donc, il faut le savoir si on veut aller vers là. C'est quelque chose qui n'est pas simple, mais il faut dénoncer pour arrêter ça, pour que les gens quand même soient arrêtés. Là. Puis là, je parle de poursuite civile, c'est pas comme aux criminels, mais les deux options peuvent être faites. Donc, bref, parlez-en, vous êtes la victime. Donc, c'est pas de votre faute s'il y a une photo qui s'est retrouvée. Là, le coupable est celui qui partage le contenu. Là, c'est pas vous, donc... N'hésitez pas à en partager.
Mais ceci dit, Hunter Moore, pour revenir sur le personnage un peu, lui, il avait, et publiquement, il n'avait pas honte, en fait, de dire ce qu'il faisait, puis de même braguer, là, de se vanter de ce qu'il faisait. Il allait dans des gros shows américains, oui. Des morning shows. Il est allé à Anderson Cooper, justement, en 2011, où il en parlait, en fait, ouvertement, comme si de rien n'était.
Ah oui, puis en plus, sur le plateau d'Anderson Cooper, il était confronté à deux femmes là, qui avaient été, elles, exposées sur le site Is Anyone Up, là, il était assis à côté d'elle. Là. Puis lorsqu'une des deux femmes, elle lui a dit qu'elle lui reprochait là, d'avoir aidé en fait des personnes à diffuser, de l'avoir aidé à diffuser des photos comme ça, bien, il a répondu « Personne ne t'a pointé une arme sur la tempe et ne t'a fait prendre ces photos. Nous sommes en 2011, tout est sur Internet. » C'est comme lui, encore une fois, il a remis la responsabilité sur la personne, sur le fait que ces photos-là existaient. Puis étant donné que les photos existent, ben, c'est normal, ça peut se retrouver sur Internet. Mais c'est l'attitude qu'il y avait, vous pouvez la trouver sur YouTube. Là,
ah oui, c'est troublant.
C'est incroyable, je ne sais pas comment. C'est un vrai sociopathe. Là. Je ne comprends pas comment il ne peut pas... Hey, moi, je serais tellement gêné.
Mais même à cette époque-là, on voyait, il y a d'autres interviews de lui qui sont disponibles sur YouTube, puis il y a même des panélistes dans des shows de télé qui discutent du cas, puis souvent, c'est souvent ça qui revient, en fait. Il y a peu d'empathie envers les victimes.
Oui, exact.
C'est vraiment même les journalistes disent « Ah, mais ces personnes-là avaient juste à pas prendre de photos. » Ça revient toujours comme ça.
Oui, exact.
On voit que l'époque, à cette époque-là, c'était... On dirait que c'était différent les perceptions à propos de ça. Là.
Mais on commençait, tu sais, si tu reviens dans le temps, là, 2000, c'est 2007, là, le fragment là, numérique des cellulaires, tu sais, qui a un peu, numérisé un peu tout le monde. Puis je pense que c'est juste de l'éducation. Ça faisait juste 3 ans, tu sais, qu'on était habitué à vivre dans un monde numérique, qu'on pouvait prendre autant de selfies avec nos... Tu sais, avant, on ne prenait pas autant de selfies avec nos Kodak numériques. Et tout ça, là, puis des photos tenues de nous, quand il fallait que tu ailles faire développer le film à la pharmacie, je suis pas sûr que beaucoup de gens prenaient des photos nues d'eux-mêmes, tu sais, parce qu'ils savaient que quelqu'un allait le développer versus aujourd'hui, là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a cette forme d'éducation-là qui fait en sorte qu'on n'a pas la même perception, je pense, sur le numérique puis les photos qu'on prend, là.
Mais que fait-il maintenant, notre cher Hunter Moore? En fait, il fait plutôt profil bas de nos jours après sa sortie de prison en 2017. Il est toujours banni de Facebook. Ah, intéressant, c'est bien qu'il l'ait gardé blacklisté. Mais jusqu'à la sortie du documentaire sur Netflix, là, The Most Hated Man on the Internet, qui est sorti en 2022, il était toujours actif sur Twitter avec le pseudo « I am Hunter Moore ». Et il y publiait encore régulièrement des selfies au gymnase et des photos de son chien. Cependant, suite à la pression populaire qui questionnait Twitter à savoir pourquoi il avait encore le droit d'avoir un compte et qu'il voyait aussi augmenter encore plus sa notoriété suite à la diffusion du documentaire, Twitter a finalement suspendu son compte depuis ce temps. Maintenant, on va voir ce que Elon Musk va faire, étant donné qu'il réactive des comptes suspendus.
Oui.
En 2017, Substream Magazine a révélé que Hunter prévoyait de créer des morceaux de musique le EDM à sa sortie de prison. Et il en a publié une intitulée « Make the Internet Great Again », donc en référence au slogan de Trump.
J'ai pas eu la chance, je sais même pas si c'est indisponible, mais j'ai pas eu la chance de l'écouter.
Je sais pas si ça sonne comme en 2010. Il a également écrit un livre très controversé intitulé « Is Anyone Up » qui a été publié en 2018. Il prévoit aussi un nouveau site qui, selon lui, se demandera si vous voudrez un jour avoir des enfants.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Mais do you want to be pregnant? Tu sais, souvent, les gars, ils veulent choisir des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants ou quelque chose comme ça.
Ah bon, là. OK.
Un autre site misogyne. Là, tu
sais, incel un peu encore. Eh bien... Bon, ben ça fait un peu le tour de la chronologie, Seb, et de cette histoire de Hunter Moore. Si vous avez du contenu à consommer autour de ça, ben il y a le documentaire de Netflix, là, l'homme le plus détesté d'Internet, qu'on vous suggère, documentaire en 3 parties. Il y a aussi Vice, ont couvert le sujet de nombreuses fois via des vidéos. Il y en a une intéressante avec Charles, l'ex-marine. Charles, c'est le hacker. Donc, il y en a quand même des intéressantes. Il y a des papiers aussi qui ont été faits sur le site de Motherboard, entre autres.
Oui, exactement.
Vice aussi, si je ne m'abuse. Vice, j'en ai parlé, mais Wired, en fait, en a parlé aussi. Oui. Donc, énormément de stocks si vous êtes intéressé par cette histoire-là. Puis Seb, peut-être pour terminer, toi, tu avais quelques stats à propos du site, justement.
Oui, ben, je voulais vous en parler un peu. On n'en a pas trop parlé pendant l'histoire, mais je voulais juste un peu revenir sur ses revenus parce qu'on se questionnait, oui, à la fin, il faisait moins d'argent, mais quand même, par exemple, en novembre 2011, selon lui, il gagnait 13 000 par mois. Mais il dit que ses frais de serveur étaient de 8 000. Et ça, c'est drôle parce que aujourd'hui, je veux dire, juste notre serveur de distorsion, là, il y a je sais pas combien de tera par mois, puis ça coûte presque rien.
Ouais.
Versus ça, tu sais, je trouve ça particulier. C'est peut-être aussi une autre époque. Là. Puis il disait que les pages vues dépassaient 30 millions de pages vues par mois. Ça me surprendrait pas. Un an après son lancement, il disait qu'il recevait 300 000 visites par jour puis qu'il faisait 20 000 par mois en revenus publicitaires. Donc, tu sais, ça a toffé, comme on disait, 16 mois. C'était pas les premiers mois. Puis il n'a pas fait, tu sais, au final, là, il n'a pas fait tant d'argent que ça.
Oui, ça n'a pas été un grand coup.
Ben non, ça a été un grand coup, de succès. J'aime pas dire succès pour ce site-là, là, mais ça a été populaire. Mais c'est dur à monétiser, là, veut pas. Là, le monde, à un moment donné, s'en sont rendu compte assez rapidement.
Tu vis sur du temps emprunté, puis c'est un gars qui avait des gros frais d'avocat aussi. Là.
Oui, ben oui, exact. Là, quand les poursuites s'accumulent, même son avocat, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il l'a lâché en cours de route, en fait. Son avocat est avec lui depuis le début du site qui était... plus axé sur les soirées et tout ça. Mais quand le site a pris vraiment une tangente, son avocat est parti. Mais il restait quand même conseiller pour lui. Puis il lui disait, tu devrais juste les retirer, les photos qui sont là, pour éviter les poursuites. Puis il ne l'a jamais fait. Parce que imagine s'il l'avait fait tout de suite avec Kyla, peut-être qu'elle n'aurait jamais été dans toute sa croisade. Bref, je voulais un peu vous parler de ça. Puis dernière petite chose, essayez pas d'aller sur la Wayback Machine pour aller voir les archives de Is Anyone Up. C'est bien écrit qu'elles sont exclues de la Wayback Machine. Donc, voilà, il faut faire plus de recherches pour trouver ça, mais ça vaut pas la peine.
Yes. Et vous, cher Distordu, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de Hunter Moore? Est-ce que vous avez déjà été victime de sextorsion? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Dites-nous-le, vous pouvez nous le dire partout. On est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter aussi, justement, et sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet. Et on a un after show, encore une fois, où on va vous parler encore d'une histoire en lien avec la revenge porn, l'histoire de Kevin Bollard, qui, lui, a lancé un autre site web, YouGotPosted.com, qui est le premier condamné, en fait, de la loi américaine sur la revenge porn. Donc, on vous en parle tout de suite après cet épisode-ci pour nos abonnés Patreon au forfait Oui Monsieur. Donc, encore une fois, patreon.com/distorsion si vous voulez vous abonner.
Oui.
Et justement, afin de bien terminer ce 100e épisode, Seb, on n'a pas le choix de donner des gros shout-outs à nos abonnés Patreon.
Je donne beaucoup d'amour à David K, Nathalie J, Cassandre, le mystérieux Maxime, et Spade.
Aussi, une belle poignée de main à Raphaël D, à Yassira D, à Ariane C, à Geek Zig et à René F.
Je poursuis avec un high five à Marc-Antoine D, M, Rémi G, Arnaud F, Sophie D et je conclue avec Justine B.
Ce show ne pourrait pas exister sans la contribution de Catherine C, de Marie-Ève D, de Neon Gold, de Charles Q et de Aurore P.
Et je donne de l'amour à Tyler D, Jasmine L, Annabelle C, Ace Val et Alexandra PB.
Un gros câlin à Sima, à Isabelle B, à Kevin L, à Jade et à Sébastien. Je sais pas si c'est toi, Seb.
Oui, je suis. Je donne en secret. Et je poursuis avec Grin, Matt, Le Bordelois, Guillaume C et Catherine J.
Un gros shout-out à Vicky, à Fabio Lust, à Coralie B, à Justine G et à Karine F.
Encore de l'amour à Charles-René P, à Cynthia R, Edith B, Catherine C et Marc-André L.
Et pour terminer, un gros câlin à Jamily T, à Kat S, à Lise, à Isabelle M et à Marie-Pierre H. Merci à vous.
Oh oui, merci beaucoup, on vous aime.
Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
Chers distordus, on compte sur vous pour nous suivre jusqu'en 2027, dans 5 ans, pour notre 200e épisode.
On se rendra jamais à 200, Seb.